Réplique, la philosophie et la vie, avec André Comte-Sponville et Michael Fessel. Pierre Hadot et Michel Foucault nous ont rappelé il y a peu que la philosophie pour les anciens n'était pas seulement théorie. Elle ne consistait pas, comme pour nous autres modernes, dans un acte de pure connaissance ou de réflexion sur les conditions de la connaissance, mais dans une attitude concrète, dans un style de vie qui engage toute l'existence. La philosophie des anciens n'apprend pas seulement à déchiffrer et à interpréter le monde, elle apprend à vivre, à dialoguer et à mourir. En lisant « Le temps de la consolation » de Michael Fessel et « Ces choses tendres que la vie » d'André Comte-Sponville, je me suis demandé si pour ces deux philosophes, le temps n'était pas venu de renouer avec la philosophie au sens que les anciens donnent à ce terme. Je pose donc abruptement la question, est-ce le cas? La philosophie doit-elle et peut-elle redevenir une manière de vivre? André Comte-Sponville.
Mais écoutez, moi je dirais qu'elle n'a jamais cessé tout à fait de l'être. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on dit souvent, l'idée que la philosophie serve à vivre mieux, ça n'est pas une idée exclusive des anciens. Les modernes le disent aussi, que ça soit Descartes, bien penser pour bien faire, que ce soit Spinoza, Kant encore. Dans l'Opus Postumum, Kant écrit, à propos, définition de la philosophie est une pratique et un exercice de la sagesse, non une simple science, disait Kant. Autrement dit, je dirais que l'idée que la philosophie serve à vivre est consubstantielle à l'idée même de la philosophie. Mais il est vrai que les modernes, mais surtout au XXe siècle, avaient tendance à l'oublier quelque peu. Et pour ma part, quand j'ai publié mon tout premier livre en 1984, il y a plus de 30 ans, j'avais le sentiment, en effet, de renouer avec cet idéal ancien d'une philosophie qui aide à vivre mieux, d'une philosophie qui tente à la sagesse. Mais je le raconte dans mon livre, pour raconter une anecdote, j'avais envoyé ce premier livre à Michel Foucault, avec un sentiment un peu d'étrangeté, parce que je l'admirais de loin, parce que c'était pas du tout ma tasse de thé, si j'ose dire. Et voilà que Michel Foucault me répond dans une lettre très chaleureuse, me remerciant de mon livre et disant, à propos de mon livre, « Enfin une véritable philosophie, enfin une véritable éthique ». Et j'étais sidéré, parce que pour moi, le Foucault des mots et les choses faisait l'inverse de ça. Et puis, quelques semaines après avoir reçu cette lettre, je parais l'histoire de la sexualité de Michel Foucault, et du même coup, je comprends, c'est que Michel Foucault avait fait lui-même ce même retour à la philosophie au sens des anciens, comme art de vivre, comme quête de la sagesse, et donc finalement, j'étais moins seul que je ne le croyais. Et je dirais que cette dimension-là, quand j'ai publié donc ce premier livre, Le mythe d'Icare, mes collègues étaient un peu perplexes parce qu'ils trouvaient que je renouais avec une façon de philosopher qui ne se faisait plus depuis quelques siècles, comme me l'a dit mon professeur de Cagnes. Et aujourd'hui, on redécouvre qu'en effet, cette tendance-là, l'idée d'une philosophie, alors qui est bien sûr d'abord un travail de pensée. Ça n'est pas d'abord un art de vivre, c'est un art de pensée. Mais par différence avec les sciences, c'est un art de pensée qui doit déboucher sur une certaine manière de vivre qu'on appelle traditionnellement la sagesse. Et bien cela qui passait pour un peu atypique ou exceptionnel il y a 30 ans, aujourd'hui, je dirais, est devenu en quelque chose l'aspect dominant de la philosophie contemporaine.
Alors, pour aller dans votre sens, avant que je donne la parole à Michael Fessel, il y a eu en effet un tournant chez Michel Foucault, un tournant qui s'est produit entre le premier volume de l'histoire de la sexualité et les deux derniers. Et évidemment, son œuvre a été interrompue par sa mort parce qu'il a corrigé l'usage des plaisirs et le souci de soi dans les dernières semaines de sa vie. Mais c'est vrai, il est passé d'une lecture politique en termes de dispositifs de pouvoir à une doctrine éthique en termes de pratique de soi. Et ce qui l'a intéressé, c'est de savoir comment le sujet se constitue plutôt que de savoir, plutôt que de dire qu'il est simplement constitué par des techniques de domination. Et d'ailleurs, Foucault a écrit dans la préface de ses deux derniers volumes que il faisait tout pour se déprendre de lui-même. Et en se déprenant de lui-même, d'une vision peut-être trop exclusivement politique des choses, il renouait en effet, d'une certaine manière, avec la philosophie au sens ancien, et notamment du souci de soi. Michel Fessel.
Effectivement, bon, si on part de Michel Foucault, parce que je crois que c'est une figure centrale, en plus de Pierre Hadot, qui a d'ailleurs exercé une certaine influence sur lui, on peut dire qu'il s'est un peu dépris de la problématique de l'assujettissement, de la norme comme constituant des sujets en quelque sorte dominés, pour s'intéresser à ce qu'il appelait lui-même la subjectivation, c'est-à-dire la manière dont des savoirs ou des pratiques d'ailleurs de soi, qui étaient aussi bien corporelles que spirituelles, pouvaient agir sur la vie. Alors, moi, j'aurais une position qui est un petit peu... peut-être différente, en ce sens que je reconnaîtrais quand même la différence entre ce que Foucault lui-même d'ailleurs appelait les savoirs de spiritualité et les savoirs de connaissance. Et dans la thèse de Foucault, effectivement, la modernité, effectivement, certainement plutôt l'âge contemporain, ayant privilégié les savoirs de connaissance, à savoir que, ou la thèse selon laquelle la connaissance objective des phénomènes ou des systèmes d'ailleurs, ne constituaient pas nécessairement ou n'avaient pas nécessairement un impact subjectif. Et il me semble qu'il y a quand même dans la modernité, bien sûr Descartes est encore un philosophe qui considère que le savoir agit ou doit agir sur la vie, mais ce n'est pas exactement le même savoir que le savoir spirituel tel qu'on le trouve par exemple chez les stoïciens. C'est quand même un savoir qui c'est peut-être ça l'élément central de la rupture moderne, un savoir qui est quand même informé par la science, c'est-à-dire qui devient un savoir tendanciellement objectif. Et la question qui se pose, c'est de savoir si la vérité scientifique, si la vérité objective peut être encore d'un quelconque usage pour l'usage de la vie, précisément pour le souci de soi, ou si au contraire, et c'est tout de même une chose que l'on peut, je crois, remarquer, si elle ne constitue pas entre soi et soi-même, ou même entre soi et le monde, un écran qui ne nous permet pas d'utiliser, au fond, de manière existentielle, ce que nous savons par ailleurs être vrai de la nature, du monde ou de la société.
Et donc, ce qui conduirait la philosophie, sinon à se détourner de la science, du moins peut-être à ouvrir d'autres chemins, précisément pour parler aux hommes de leur existence, ce que la science n'est pas en mesure de faire.
Certainement.
Parce qu'il y a cette part de la vie qui n'est pas écrite en langage mathématique.
Il y a eu, bien sûr, tout à fait. Il y a eu au XXe siècle, alors pour le coup, tout un courant de la philosophie, en particulier de la phénoménologie d'ailleurs, qui s'est intéressé à des types de savoirs, ou à des types d'expériences d'ailleurs plutôt, qui sont des expériences qui échappent au savoir scientifique, qui ne sont pas, qui ne relèvent pas de la démonstration, qui ne relèvent pas de l'abstraction mathématique. Mais, cela étant, ce type d'expérience, ce type, pensez à Lévinas dont vous avez parlé récemment, ne nous sont pas forcément très utiles, je dirais, dans la vie. C'est-à-dire qu'ils marquent une exigence ou ils marquent une forme de rationalité non scientifique, mais qu'il est plus difficile de convertir en morale. Pensez même, si on prend une figure fondamentale de la phénoménologie française comme Sartre, la difficulté qu'il y a eu sur la base, disons, de sa description de la liberté ou de la, ou de la condition humaine, la difficulté qu'il a eu à constituer quelque chose comme une morale ou une manière de vivre.
Oui, il ne s'agit pas pour le philosophe de se détourner des sciences. Il faut bien sûr en prendre acte. C'est-à-dire pourquoi l'idée d'être aujourd'hui platonicien, aristotélicien, épicurien ou stoïcien n'a pas de sens. Le monde n'est pas le même, les sciences ne sont pas les mêmes. En revanche, il s'agit de comprendre que les sciences ne font pas une philosophie. C'est-à-dire qu'elles ne tiennent aucun discours normatif, par exemple éthique, aucun discours métaphysique. Les sciences ne répondent pas à la question de savoir si nous sommes libres ou déterminés, si Dieu existe ou pas, qu'est-ce que la justice, qu'est-ce que le bonheur. Les sciences n'en disent rien. La biologie, par exemple, ne dira jamais si la vie vaut la peine d'être vécue. Donc d'un côté, les sciences ne tiennent pas lieu de philosophie, et d'un autre côté, la philosophie n'est pas une science. Il n'y a pas, en toute rigueur, de savoir philosophique. Je dis souvent, la philosophie, ça n'est pas un savoir de plus, c'est une réflexion sur les savoirs disponibles. Donc, il faut tenir compte des sciences, bien sûr, comme savoirs disponibles, mais la question, c'est quelles conséquences peut-on en tirer, conséquences théoriques, par exemple, d'un point de vue métaphysique, d'un point de vue méta-éthique, et puis conséquences pratiques. Je dis souvent, c'est un raccourci, mais je dis souvent, philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. Alors, c'est un raccourci et un idéal. On n'y arrive jamais tout à fait. Il y a toujours de l'impensé dans toute vie et du non-vécu dans toute pensée. Mais je dirais que que cet idéal indique au moins une direction. Il ne s'agit pas de se contenter de répéter ce que disent les sciences ou de les commenter à l'infini. Il s'agit d'en tirer un certain nombre de conclusions à la fois théoriques et pratiques. Et donc, il s'agit de philosopher.
Mais alors, quand même, je constate aujourd'hui que le souci de soi redevient d'actualité partout. Toutes sortes de méthodes et de techniques nous sont proposées pour nous rendre meilleurs ou plus heureux. Et là, je vois un danger pour la philosophie qui prétendrait renouer avec la pratique des anciens, celle justement d'être annexée, en fait, par le New Age, en guise de retour. Donc la philosophie ne risque-t-elle pas, justement, avec tout ce coaching, si elle se présente comme manière de vivre, de caricaturer en réalité la philosophie des anciens? Autrement dit, voilà, le coaching est partout et je souffrirais de voir apparaître, et j'en souffre déjà parce que ça existe, des philosophes coach, Michael Fessel.
Bien sûr, mais ça renvoie peut-être à ce que l'on appelle ou à ce que l'on considère comme étant la finalité de la philosophie, et que très longtemps, et enfin en particulier d'ailleurs pendant toute la période antique, on a défini, enfin difficilement d'ailleurs, mais qu'on a appelé plus exactement bonheur. Et évidemment, on voit très bien comment des philosophies, disons, de nature eudémoniste, c'est-à-dire qui font du bonheur la finalité de toute pensée ou de toute sagesse, ce qui est la thèse, je dirais, commune finalement à Platon, Aristote, les stoïciens, cette thèse générale peut être récupérée par une conception individualiste et même, disons, très libérale du bonheur, très, très personnelle du bonheur. Et là, à mon avis, effectivement, je vous rejoindrai sur le fait qu'on tombe dans une espèce de d'illusion qui consisterait à penser que le savoir ou qu'une certaine pratique d'ailleurs de la philosophie amènerait ipso facto le contentement de soi. Je dirais que la philosophie comme thérapie, la philosophie comme d'une certaine manière même technique de management, si vous voulez, de soi cette fois-ci, laisserait de tomber, ou la réduction de la philosophie à ce type de pratique ou de technique laisse de côté ce qui est quand même aussi un des apports fondamentaux de la philosophie moderne en particulier à mes yeux, mais déjà avant, c'est-à-dire la dimension critique, et critique y compris à l'égard des modèles ou des prénotions que l'on a de ce que c'est qu'une vie réussie ou un bonheur individuel.
Oui, moi je partage votre inquiétude concernant cette confusion entre la philosophie et le coaching, comme vous disiez, ou on pourrait dire aussi bien le développement personnel. Pourquoi je disais, en commençant, que la philosophie, c'est d'abord un art de penser, avant d'être un art de vivre. Or, toute pensée digne de ce nom doit se soumettre d'abord à la vérité, alors au peu de vérité auxquelles nous avons accès, ce que j'appelle avec Spinoza la norme de l'idée vraie donnée, ou la norme de l'idée vraie donnée où possible. C'est pourquoi j'ai toujours dit que le but de la philosophie, c'est le bonheur, mais comme pour tout être humain, et on n'est pas dans d'être philosophe pour préférer être heureux, mais attention de ne pas confondre ce but qui est le bonheur avec la norme de la philosophie qui est la vérité au moins possible. J'ai souvent écrit « Mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie ». Autrement dit, la vérité prime. Et je me souviens un jour, je faisais un débat à la télévision avec Christophe André, le psychiatre bien connu qui au demeurant est un ami. Et j'avais dit ça « Mieux vaut une vraie tristesse qu'une fausse joie ». Et Christophe André prend la parole pour nous dire « Moi, en tant que thérapeute, c'est un peu différent ». Et je lui dis, mais je le comprends bien. Et il a en charge la santé de ses patients, des gens qui sont peut-être dépressifs, suicidaires. S'il peut leur faire un peu de bien, quitte à ne pas tenir un discours absolument lucide, il aurait tort de s'en priver. Mais moi, je ne suis pas un thérapeute. Je suis un philosophe. Je ne suis pas en charge de la santé de mes lecteurs, si j'ose dire. J'essaye de les aider à réfléchir un peu mieux. Autrement dit, la lucidité prime. La philosophie n'est ni un antalgique, ni un euphorisant. Il ne s'agit pas d'aller au bonheur par le plus court chemin, il s'agit d'essayer de penser ce qui paraît vrai et dans un second temps d'essayer d'en tirer un certain bonheur. Mais encore une fois, la vérité prime, la philosophie est un travail de la pensée avant d'être un art de vivre. Mais si elle se contente de penser sans déboucher sur une nouvelle façon de vivre, elle n'est plus tout à fait fidèle à l'idéal philosophique.
Oui, mais alors justement, est-ce qu'on peut aller jusqu'à intégrer cet art de vivre dans la philosophie? Vous avez dit, vous avez pris vos distances l'un et l'autre avec précisément le développement personnel, les thérapies qui, évidemment, ont le droit d'exister, qui sont peut-être les formes contemporaines des exercices spirituels dont parle Pirado. Mais justement, est-ce que ça ne veut pas dire que la philosophie doit avant tout être et rester une élucidation, comme d'ailleurs la littérature, quand au sens fort du terme, la vraie vie enfin découverte et éclaircie, c'est la littérature, dit Proust, une vie non examinée ne mérite pas d'être vécue, dit Socrate, la philosophie examine la vie, cette élucidation a forcément un retentissement en nous, et elle nous change, mais dans la mesure où elle reste descriptive, le passage à la prescription me semble, moi, devenu impossible. Michel Fessel.
Bien sûr, ce que j'appelais tout à l'heure la fonction critique de la philosophie joue aussi, à mon sens, contre les injonctions au bonheur ou les injonctions à la réconciliation avec soi ou les injonctions à, disons, l'autosuffisance, l'individualité. C'est ce qui, à mon avis, fait quand même que nous avons rompu définitivement avec le modèle... Ça, c'est une position personnelle, avec le modèle justement du souci de soi épicurien ou a fortiori stoïcien, l'idéal d'autarcie qui se réalise, on le voit socialement parfois, ou en tout cas le fantasme d'autarcie se réalise socialement dans des proportions que les stoïciens les plus acharnés n'auraient pas pu imaginer. Parce que ce qui se pose ici, évidemment, c'est la question de savoir, puisque quand on parle de la philosophie et de la vie, c'est de savoir s'il y a dans la pensée la possibilité de rejoindre toujours la singularité de l'existence ou la singularité de la vie, ou dit en d'autres termes, est-ce que la vérité est un gage de bonheur ou de joie? Et je crois quand même que la philosophie, particulièrement pour le coup une philosophie, disons, dégrisée par rapport à la métaphysique, une philosophie contemporaine en ce sens, prend aussi acte de la possibilité que j'appellerais pour ma part tragique, c'est-à-dire du fait que la vérité, surtout si on l'entend d'ailleurs au sens de la vérité objective, la vérité n'est pas nécessairement traductible, si je puis dire, dans les conditions de l'épanouissement de soi ou même d'ailleurs de la satisfaction. La mort de Dieu, telle qu'on l'a thématisé bien avant Nietzsche d'ailleurs, c'est aussi la mort de cette conversion, de cette conviction que la vérité et le bonheur sont convertibles de manière certaine.
Oui, c'est la grande formule de Renan, il se pourrait que la vérité fût triste. Et le philosophe athée matrice que je suis en est bien convaincu. Au fond, c'est ce que j'appelle le tragique. Qu'est-ce que le tragique? C'est la prise en compte inconsolée de ce qu'il y a d'effrayant et de pitoyable dans la condition humaine. Et donc, la vérité n'est pas là pour nous rendre heureux. Mais est-ce qu'il faut pour autant renoncer au nom de la vérité à toute quête du bonheur? Pour ma part, je n'en crois rien. Et puis, il faut dire un mot sur la question politique qu'évoquait Michael Fessel. Il a bien raison. C'est-à-dire que une partie de cette vogue de la philosophie ancienne, alors, encore une fois, j'en suis peut-être en partie responsable, puisque j'ai voulu renouer, en effet, avec cette façon-là de philosopher. Mais une partie de la vogue, aujourd'hui, de la philosophie ancienne, tient au fait que nous sommes un petit peu dans le même état de perplexité socio-historique que les anciens de la période hellénistique, c'est-à-dire à la fin de l'Empire d'Alexandre. C'est l'époque d'Épicure, c'est l'époque de Pyrrhon, c'est l'époque du second stoïcisme, où il semble que la politique n'offre plus de débouchés crédibles. Et donc, en effet, comment penser par tant de catastrophes, comme on l'a dit, comment essayer d'être heureux quand même quand tout va mal autour de soi? Alors, je dirais que, toutes choses étant égales par ailleurs, mais nous sommes un peu dans une situation où, faute d'un avenir historique crédible, a fortiori exaltant, la tendance existe en effet à se replier sur son quant à soi individuel. C'est une tendance qu'il faut combattre, bien sûr. Et là encore, je ne cesse de répéter que nous avons besoin de faire de la politique. Que si l'on compte sur la morale pour tenir lieu de politique, ou si l'on compte sur la philosophie pour tenir lieu de politique, on se raconte des histoires. Et d'ailleurs, disons plus que aujourd'hui, Le maillon faible de notre société, ce n'est pas le maillon moral ou le maillon philosophique ou spirituel, comme certains veulent le faire croire. C'est le maillon politique. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a urgence à réhabiliter la politique. Mais ça fait partie de la fonction de la philosophie, justement. Et donc, il ne s'agit bien sûr pas de s'enfermer dans le précaré de la vie privée. Il ne s'agit pas non plus de renoncer, évidemment, à la vie privée. Il s'agit d'assumer la complexité de la condition humaine dans sa dimension de solitude, dans sa dimension relationnelle et aussi, bien sûr, dans sa dimension politique.
Michel Foucault.
Oui, je crois effectivement que le savoir n'est pas, on en a beaucoup discuté à la suite d'un certain nombre de propos publics sur le savoir est-il d'emblée une excuse. Bon, mais le savoir est aussi une manière, je dirais, de prendre distance par rapport à un certain nombre d'exigences qui nous sont tout de même imposées par la société, y compris, je répète, celle de jouir, par exemple, ou celle d'être heureux, ou celle d'être identique à soi, et que la philosophie a cette fonction, en particulier la philosophie en tout cas qui m'intéresse, la philosophie a pour fonction d'inquiéter les partage par lesquels précisément heureux, malheureux, tristesse, joie, consolation, jouissance, etc. Les partages qui nous sont qui nous sont sinon socialement hérités, historiquement constitués. Enfin là, il y a tout un travail évidemment de généalogie à faire, mais dans lesquels se trouvent prises nos vies, qu'on le veuille ou non. J'aurais une certaine hésitation, pour le moins d'ailleurs, à avoir une conception vitaliste de la vie, si je puis dire, c'est-à-dire considérer que la vie, dans sa pureté, serait en quelque sorte toujours regagnable ou qu'on pourrait toujours la rejoindre par-delà les médiations sociales, culturelles et historiques qui la traversent.
Oui, et vous parliez de l'injonction au bonheur, ça me rappelle le livre de Pascal Bruckner, d'ailleurs auquel vous faites référence, André Comte-Sponville, l'euphorie perpétuelle, et il est bon que la philosophie ne se laisse pas embarquer dans cette galère. Reste que, vous avez dit, Comte-Sponville, oui, le tragique de l'existence, c'est quelque chose d'effrayant et d'inconsolé. Or, dans votre livre, Michel Foucault, vous dites que le temps est venu de la consolation. Et là, ça nous ramène, évidemment, à la philosophie au sens des anciens, et notamment à ce texte extraordinaire de Boès dans sa cellule, de Condamné à mort, Consolation de la philosophie. Et parler de consolation aujourd'hui, ça me paraît éminemment paradoxal, parce qu'en quelque sorte, nous avons perdu le fondement métaphysique de la consolation. On pouvait consoler les hommes, la religion ou la philosophie, quand on pouvait s'adosser à un arrière-monde, quand il y avait de l'au-delà, de la vie éternelle ou de l'immortalité de l'âme. Mais si on lit aujourd'hui, par exemple, un des sommets de la langue française, qui est le sermon sur la mort de Bossuet, alors on lit des choses absolument extraordinaires. Voici que vous avez fait mes jours mesurables, et ma substance n'est rien devant vous. Il parle Dieu. Non, ma substance n'est rien devant vous, et tout l'être qui se mesure n'est rien, parce que ce qui se mesure à son terme, et lorsqu'on est venu à ce terme, un dernier point détruit tout, comme si jamais il n'avait été. Qu'est-ce que 100 ans, qu'est-ce que 1000 ans, puisqu'un seul moment les efface. Et puis, ce passage extraordinairement connu, il n'y aura plus sur terre aucun vestige de ce que nous sommes, la chair changera de nature, le corps prendra un autre nom, même celui de cadavre ne le demeurera pas longtemps, il deviendra, dit Ursulien, un je ne sais quoi qui n'a plus de nom dans aucune langue. Tout ça est absolument terrible, mais il y a évidemment le redressement final. Il cite saint Paul, l'épître aux Corinthiens, « Si cette maison de terre et de boue dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons une autre maison qui nous est préparée au ciel. » Et Bossuet nous rassure, « Dieu nous donne un appartement pour nous faire attendre en repos l'entière réparation de notre ancien édifice. » Sauf que précisément, cette consolation-là a disparu. Elle a presque disparu pour les croyants eux-mêmes, qui, sur cette question de la vie éternelle, sont aujourd'hui assaillis pour le doute. Donc, nous lisons Bossuet, mais ce que nous retenons de Bossuet, c'est l'extraordinaire lucidité sur la mort. La consolation, elle, nous est interdite. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'être moderne, c'est être, par définition, inconsolé?
Oui, être moderne, c'est être inconsolé, mais être inconsolé, ça n'est pas encore être inconsolable. C'est-à-dire qu'en réalité, en tout cas c'est l'hypothèse que j'ai développée dans ce livre, évidemment vous avez cité Boès puis Bossuet, c'est-à-dire deux grandes figures de la consolation, l'une métaphysique par le savoir sur l'immortalité de l'âme, par disons un modèle encore très platonicien d'ailleurs du savoir, et puis l'autre chrétienne en l'occurrence, qui relève elle aussi, sinon d'un savoir, du moins d'une foi certaine dans l'après. Bon, donc il est un fait que la philosophie a renoncé, pas la religion, moins la religion, quoique, mais en tout cas la philosophie a renoncé à consoler dans ce sens-là, c'est-à-dire à produire des savoirs certains sur ce qui viendrait en quelque sorte en surabondance au-delà de la vie, réparer les injustices de la vie. Mais le terme de consolation, quand on le prend au sens, je dirais, même élémentaire, ça n'est précisément pas, ou à mon sens en tous les cas, celui d'un savoir l'espoir ou d'une foi certaine sur le fait que tout sera réparé. Il y a bien dans l'idée de consolation, et même dans la consolation, dans la pratique de la consolation la plus élémentaire d'ailleurs, il y a plutôt l'idée que la perte qui a été subie, mettons le deuil d'un enfant ou la perte d'un amour même, eh bien cette perte, elle est définitive. Le consolateur va amener quelque chose à la place d'eux. Et il me semble que c'est cette idée-là du supplément, de ce qui peut en quelque sorte justement donner à penser, à agir, à imaginer au-delà de la perte, que la consolation, c'est en ce sens-là, pardon, que la consolation est éminemment actuelle à un moment où, là, je rejoins ce qu'a dit André Comte-Sponville, on voit bien que dans l'ordre du politique, par exemple, mais ça ne serait pas le seul exemple, eh bien, nous sommes, et peut-être pour le meilleur d'ailleurs, nous sommes abandonnés par les certitudes anciennes. Et pour prendre un seul exemple, du caractère au fond philosophique de la consolation, non pas que la philosophie console, mais que la philosophie s'intéresse, puisse s'intéresser à la consolation. Je cite à un moment un texte méconnu de Kant, le grand philosophe des Lumières, celui qui est a priori le modèle même, disons, pas du positivisme évidemment, mais disons de la certitude dans les puissances de la raison, et qui parle du progrès comme d'une catégorie de la consolation. C'est-à-dire que le progrès, avant de devenir progressisme, c'est cette idée qu'il y a la possibilité d'ouvrir un avenir, la possibilité que... Si le progrès, l'idée moderne de progrès est une consolation, Kant le dit, eh bien c'est qu'il y a eu une perte. C'est qu'il n'y a de consolation que sur la base d'une désolation. Et l'idée du progrès comme avenir ouvert, eh bien à mon sens, on peut l'interpréter, ou interpréter ce qu'en dit Kant, comme consolation par rapport précisément à ce que vous avez indiqué, c'est-à-dire la certitude qu'il y aura un après qui sera en revanche à la hauteur, je dirais, de nos drames. Donc il me semble qu'il y a, dans toute la tradition philosophique moderne, pour le coup, des tentatives de penser la consolation de ce qui vient à la place d'une perte définitive.
Moi je crois tout à fait au progrès. Mais pas du tout que le progrès soit une consolation. C'est-à-dire, on peut pas consoler quelqu'un qui a perdu un enfant, par exemple, en lui expliquant que dans 50 ans, cette maladie-là sera guérie. Et je crois qu'en effet, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, il y a une dimension inconsolée, qu'encore une fois, on appelle traditionnellement le tragique, qui fait partie de la condition humaine. Mais je dirais que le très beau texte de Bossuet que vous avez cité, confirme en quelque chose le diagnostic nietzschéen sur le nihilisme. C'est-à-dire qu'au fond, la religion, à force de concentrer toute valeur en Dieu et donc de dévaloriser le monde et cette vie-ci parce qu'il n'y a plus que Dieu qui vaille, quand on retire le Dieu, toute valeur a disparu. Et c'est comme ça qu'on passe de la religion au nihilisme. Et là, pour le coup, je crois qu'un certain détour par les anciens, par ceux qui étaient antérieure à cette dévalorisation monothéiste du monde et de cette vie-ci, est positive parce que justement, ils nous apprennent à aimer la vie dans sa finitude. Voilà, c'est ça. Le fait d'être mortel, puisqu'au fond, c'est ça que nous dit le texte de Bossuet, ça n'est pas une raison pour cesser d'aimer la vie. Quand vous partez en voyage, vous savez bien que le voyage aura une fin. Ça n'est pas une raison pour ne pas partir. Alors qu'il y a dans la religion, justement, ce geste de nous dire « cette vie n'a aucune valeur ». La vraie vie, c'est pour après la mort. Eh bien, je crois que le détour par les anciens s'explique pour une part justement par le fait qu'ils avaient pris l'habitude de vivre sans cette consolation-là. Il y avait une religion, évidemment, dans l'Antiquité, mais qui n'avait pas la même fonction consolatrice, et spécialement chez les philosophes.
Alors, il y a une autre forme de consolation proprement moderne, justement, en l'absence de cet au-delà ou de cette garantie des arrière-mondes, c'est celle que voudrait fournir la psychanalyse. J'en reste encore à cette question, justement, très importante, me semble-t-il, du deuil. On a perdu quelqu'un, l'être aimé, et que faire? J'ai lu un livre extraordinaire à cet égard du philosophe catholique anglais C.S. Lewis, A Grief Observed, un chagrin observé. Il a perdu sa femme et il est dévasté et la foi ne l'aide pas. C'est-à-dire, c'est pas parce que il peut croire en une autre vie que sa douleur est moindre. C'est au contraire la foi qui est ébranlée. Mais il y a une autre manière de consoler, c'est celle que propose Freud dans un texte que j'ai toujours jugé extraordinairement brutal, Deuil et mélancolie, avec ce qu'il dit du travail du deuil. En quoi consiste le travail qu'accomplit le deuil? Je crois qu'il n'y aura rien de forcé à se le représenter de la façon suivante. L'épreuve de réalité a montré que l'objet aimé n'existe plus et édicte l'exigence de retirer toute la libido des liens qui la retiennent à cet objet. Donc, le deuil, c'était avant Freud, effectivement, la souffrance de la perte. Et maintenant, c'est le travail pour rejoindre le monde des vivants, arracher la libido au monde des morts, en quelque sorte. Est-ce que ce serait cela la consolation des modernes, Michael Foster?
Alors, la psychanalyse serait plutôt de l'ordre, disons, pour le coup, de la thérapie, hein, et plus que de la consolation. Alors, ce texte, évidemment, est ambigu, d'autant plus qu'il fait l'objet, même la formule travail de deuil, qui n'apparaît à ma connaissance qu'une fois dans le texte, a fait l'objet, pour le coup, d'un usage, fait l'objet aujourd'hui d'un usage tout à fait exponentiel. D'autant plus que, évidemment, le mot travail, quel que soit son usage, a une connotation dans nos sociétés tout à fait positive. Alors, effectivement, si on part de l'idée que la libido n'a pas d'objet qui lui soit prédéterminé, on peut avoir cette image, mais que même Freud aura un peu nuancée par ailleurs, selon laquelle elle peut réinvestir un objet avec une grande facilité. Je crois que dans le texte sur deuil et mélancolie, ce qui intéresse le plus Freud, c'est la mélancolie. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui l'intéresse, c'est la souffrance, pour le coup, dont la psychanalyse peut prendre pour sa part la charge, la souffrance de celui qui ne peut pas renoncer à l'objet, qui s'identifie à lui, qui l'incorpore même, comme le dit Freud. Mais je vous rejoins au moins sur le fait qu'effectivement, l'injonction au deuil, la nécessité de considérer que l'on n'a rien perdu ou que ce qui a été perdu n'a été finalement que tout à fait contingent dans son existence, est parfaitement, non pas constitutif de la psychanalyse, mais constitutif de nos sociétés contemporaines. Et de ce point de vue-là, la consolation, ce n'est pas précisément le fait que n'importe quel terme pourra venir en lieu et place de celui qui a été perdu, parce qu'elle suppose justement d'approfondir en quelque sorte la tristesse que nous avons subie. Il y a bien sûr des tristesses qui sont inconsolables, mais d'une certaine manière, le détour, l'ensemble, moi ce qui m'intéresse dans la notion de consolation, c'est que au fond elle caractérise l'homme pour le coup, qui est séparé de la vérité et qui donc va multiplier les détours pour la retrouver. Et parmi ces détours, il y a la culture, il y a aussi bien parfois l'engagement, mais on peut penser, même si évidemment il est toujours difficile de faire des liens entre ce qu'il y a de plus intime et puis la vie publique, on peut penser aussi que l'ensemble des discours de consolation que sont les chants, les pratiques, le toucher aussi, il n'y a pas seulement des discours de consolation, mais il y a aussi des gestes de consolation, n'ont de valeur qu'en tant qu'ils ne viennent pas, en quelque sorte, comme des impératifs de ramener ce qui a été perdu à un non-événement, de faire de la perte un non-événement.
Le texte de Freud, il n'est pas seulement brutal, en vérité, il est outrancier sur ce point précis. S'il s'agissait de désinvestir toute libido de celui qu'on a perdu, autrement dit de cesser d'aimer nos morts, personne, je crois, ne pourrait accepter cette pensée. Je crois que Freud serait prêt lui-même, en effet, à nuancer. En revanche, ce qui est important, me semble-t-il, dans le concept de travail du deuil, c'est l'idée que le but du deuil, c'est pas la tristesse. La tristesse, elle est là déjà, la perte a déjà eu lieu. Le but du deuil, au fond, c'est que la joie redevienne au moins possible. Et je crois que ce geste-là, non pas cesser d'aimer les morts, mais apprendre à aimer d'autres vivants, c'est ce que dit Freud sur le mélancolique dans le même texte. Le mélancolique, écrit Freud, c'est celui qui a perdu la capacité d'aimer. Voilà. Il s'agit donc d'essayer de réapprendre à aimer, et je crois que ça fait partie de notre travail, de notre métier de vivant. J'ajouterais, ça permet d'éclairer le rapport et la différence entre la philosophie et la thérapie ou la psychothérapie. Il y a une phrase de Freud qui m'a toujours à la fois amusé et éclairé. Freud écrit quelque part « La psychanalyse, ça ne sert pas à être heureux. Ça sert à passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. » Il faudrait tout ignorer de la souffrance névrotique pour ne pas voir le considérable progrès que c'est que de passer d'une souffrance névrotique à un malheur banal. Parce que dans le malheur banal, on n'est plus malade, on n'est plus prisonnier de sa névrose ou de ses symptômes. Mais du coup, ça débouche sur une question. Une fois que je suis dans le malheur banal, autrement dit, une fois que je suis guéri ou pas gravement malade, qu'est-ce que je fais? Ma réponse, c'est « tu fais de la philosophie ». C'est pourquoi j'ai coutume de dire que la philosophie commence là où la psychothérapie s'arrête. C'est-à-dire que si on est prisonnier de sa névrose, de son inconscient, de ses symptômes, allez plutôt voir un psy qu'un philosophe, si vous voulez. Mais si ça n'est pas le cas, ne comptez pas sur un psy pour vous dispenser de vivre ou pour penser à votre place. Et donc, il n'y a pas lieu à ni à identifier, ni à opposer, comme c'est inconciliable, la psychothérapie et la philosophie, ce sont sont deux activités foncièrement différentes, il est exclu que l'une tienne lieu de l'autre. Et donc, la philosophie, ça n'a jamais guéri personne. J'ai vu un livre qui s'appelait « Moins de Platon, plus de Prozac ». C'est idiot, parce que la philosophie ne peut pas guérir une dépression, et donc ne tient pas lieu d'antidépresseur. Mais en même temps, si on compte sur un antidépresseur pour vous dire comment vivre, c'est la même bêtise, mais inversée. Et donc, sortons de cette espèce de querelle de chapelle, comme si chacun voulait défendre son bout de gras. La philosophie n'est pas une thérapie, elle ne guérira aucune maladie, aucune dépression, aucune névrose, mais comme la santé psychique ne suffit pas, ne répond pas à la question comment vivre, on a besoin aussi de philosophie.
Puis il peut y avoir un certain sens aussi, une forme de fidélité à cultiver sa souffrance. J'ai sous les yeux le journal de deuil de Barthes. Je voudrais vous en lire deux extraits. Impossibilité, indignité de confier à une drogue sous prétexte de dépression, le chagrin comme si c'était une maladie, une possession, une aliénation, alors que c'est un bien essentiel, intime. Et puis plus loin, tout m'est insupportable qui m'empêche d'habiter mon chagrin. Voilà aussi cela ne relève, ce discours-là, ni de la thérapie, ni de la philosophie, mais je crois que ça mérite d'être entendu. Mais là, je voudrais en venir à une question que vous avez abordée l'un et l'autre, celle d'une consolation éventuelle par le progrès. Parce que avant Kant, Condorcet a dit les choses dans ce sens-là, et c'était une sorte de consolation de la philosophie moderne, puisqu'il était lui-même menacé de mort quand il a écrit l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, et que le livre se termine par un hymne au progrès, et il dit combien ce tableau de l'espèce humaine, affranchi de toutes ses chaînes, soustraite à l'empire du hasard comme à celui des ennemis de ses progrès, et marchant d'un pas ferme et sûr dans la route de la vérité, de la vertu, du bonheur, présente au philosophe un spectacle qui le console des erreurs, des crimes, des injustices dont la terre est encore souillée et dont il est souvent la victime. Ben oui, on sait qu'il sera lui-même cette victime, puisque peu de temps après avoir terminé ce livre, Condorcet sera guillotiné. Mais aujourd'hui, il me semble que cette espérance ne nous est plus permise. Je ne crois pas qu'on puisse croire que l'humanité marche d'un pas ferme et sûr dans la route de la vérité, de la vertu et du bonheur. Nous sommes plus près du sinistre que le tocsin lui-même, écrivait René Char. Mais alors là, et là je vais peut-être me faire mal voir par vous deux, il me semble que dans ce contexte d'inquiétude, eh bien, une sorte de discrédit, d'opprobre, frappe la désolation. C'est-à-dire, en réalité, la nostalgie ou le regret. Si vous dites « c'était mieux avant », c'est-à-dire si c'était mieux, je sais pas moi, avant la ferme des mille vaches, avant le portable, avant les quartiers de plus en plus sensibles, vous êtes immédiatement traité de tous les noms et même pire. Et donc, si vous voulez, au lieu de chercher à consoler, on interdit la désolation elle-même. Et est-ce que ce n'est pas, je dirais, la tare du progressisme contemporain ? Vous n'allez pas être d'accord, Michael Fessin.
Pas exactement, mais bien que je reconnaisse une valeur, une vertu politique à la nostalgie. La seule difficulté, évidemment, c'est de savoir selon quels critères on prétend affirmer que c'était mieux avant, et par conséquent, quel est l'avant auquel on se réfère comme étant celui que l'on, dont on regrette la disparition. Et là, somme toute, cela relève, je dirais, de la discussion démocratique dans ce qu'elle peut avoir de plus habituel que de savoir ce que l'on veut pour l'avenir, et il n'est nullement exclu que l'on puisse vouloir pour l'avenir, il n'est nullement exclu en droit que l'on puisse vouloir pour l'avenir le retour à ce que l'on considère comme étant plus juste ou plus équitable. Mais c'est encore une fois une discussion relativement aux critères. Mais le progressisme, c'est là peut-être où j'aurais un différent, c'est que je ne crois pas du tout que nous soyons dans une période qui soit animée par le progrès. Parce que le progrès tel que Condorcet en parlait, tel que Kant en parlait, supposait une philosophie de l'histoire dont on a mille raisons d'ailleurs de s'être départie, dont on peut penser qu'elle a mené elle-même à des tragédies considérables, mais qui ne domine plus aujourd'hui. L'historisme n'est quand même pas la croyance dans un progrès général de l'humanité n'est pas, me semble-t-il, la croyance la plus partagée, en tous les cas, pas une croyance partagée comme elle a pu l'être à l'époque de Condorcet ou de Kant. Ce qui domine aujourd'hui, c'est plutôt cette idée, ou plutôt d'ailleurs cette pratique, d'un évolutionnisme, je dirais, technique par exemple, mais qui n'est plus, comme il l'était chez Condorcet ou chez Kant, subordonné à des exigences éthiques et politique. Car lorsque Kant ou Condorcet parlent du progrès comme d'une consolation, ils ne parlent pas de la consolation de l'être intime malheureux qui aurait perdu un enfant ou une femme. Ils parlent de la consolation de l'acteur politique, du citoyen aussi, qui constate qu'un certain nombre de ses exigences en matière, disons, d'approfondissement des libertés, par exemple, ou d'égalité, eh bien, ne sont pas réalisées dans le temps de sa vie.
André Comte-Sanville. Croire au progrès, ce qui est le cas de Michael et le mien, ça n'est pas faire du progrès une religion. Et moi, je n'aime pas les philosophes qui consolent. Je dis pas ça contre Michael. Son livre sur la consolation n'est pas consolateur, si je veux dire. Mais je le dis en partie contre Condorcet, même si c'est une très très belle figure, très très émouvante et très respectable à tous égards. Mais parce que je ne crois pas qu'on puisse absolutiser le progrès, en faire une religion, c'est-à-dire au fond une utopie. Mais renoncer à l'utopie, et je crois que c'est le lot de notre époque, ça n'est pas une raison, cher Alain Finkielkraut, pour tomber dans le déclinisme. Autrement dit, moi, je refuse de dire ça sera forcément mieux après, comme si l'avenir était déjà écrit. Ça n'est pas vrai. Le pire est possible aussi. Mais je refuse aussi de dire que c'était mieux avant. Alors, tout dépend de quel exemple on prend. Je ne veux pas défendre la ferme des 1000 vaches, mais si on compare, puisque nous avons, vous et moi, le même âge, Michael est beaucoup plus jeune que nous, moi, j'en ai un peu assez qu'on célèbre à l'envi les 30 glorieuses, comme si dans les années 50, 60, tout était parfait. On était moins bien logés, moins bien nourris, moins bien soignés. Les libertés syndicales étaient moins bien respectées. L'ORTF faisait de la propagande à longueur de temps et on ramassait des cadavres d'arabes dans la Seine à chaque manifestation, un peu violemment réprimée. Autrement dit, tout dépend de quoi on parle. Moi, j'ai tendance à penser que, à l'échelle de la planète, les droits de l'homme ont plutôt progressé que régressé depuis 30 ou 40 ans. Je considère que le progrès technique est aussi une chance. Un problème, la question de la pollution est une question gravissime, la question du réchauffement climatique est extrêmement inquiétante, mais ne jetons pas, si j'ose dire, le bébé avec l'eau du bain, arrêtons de laisser croire à nos jeunes gens que c'était forcément mieux avant, parce que moi, si je vois mes trois jeunes garçons, qui sont de jeunes adultes, qui n'ont jamais lu Finkielkraut, ils sont, si j'ose dire, finkielkrautiens spontanément, parce qu'ils ont le sentiment, en effet, que c'était mieux avant. Et cette espèce d'inquiétude larvée, de pessimisme, de nostalgie me paraît terriblement démobilisatrice. C'est un danger, me semble-t-il, qu'il faut combattre pour redonner envie aux gens de lutter.
Michael Fussell, je dirais un mot.
Bien sûr, c'est la question finalement de l'optimisme ou du pessimisme, de la mélancolie ou du progressisme, mais c'est des questions qui à titre personnel me sont relativement étrangères parce qu'elles supposent, elles présupposent qu'on pourrait avoir une connaissance absolue, disons, de la nature d'un temps ou d'une époque. Et c'est vraiment le fond du problème. C'est-à-dire, de la même manière que le progressiste BA postule que l'avenir sera pour toute une série de raisons, par exemple la contradiction des moyens de production ou les contradictions sociales, sera meilleur que le futur. Mais de la même manière, celui qu'on qualifiera alors de décliniste, et là je ne vise personne en particulier, a tout de même aussi une présupposée selon laquelle le temps peut faire l'objet, le temps passé cette fois-ci, peut faire l'objet d'une connaissance ou d'un savoir qui ne serait plus conflictuel. C'est que ça a été bien parce que ça a été. On voit bien, c'est même le travail de l'historien, finalement, que de remettre un peu en cause, de complexifier cette conception du passé.
Non, mais évidemment, il ne s'agit pas de penser en termes globaux. Quand je dis c'était mieux avant, c'était par provocation. Tout ne pouvait pas être mieux avant, j'en ai l'intime conviction. Mais il peut y avoir des comparaisons avec des périodes révolues de notre histoire, qui ne tournent pas en faveur du présent. Si l'école va mal, c'est peut-être aussi par rapport à un certain nombre d'exigences qui ont pu être mieux remplies à un certain moment. Mais je voudrais en revenir à la consolation, parce que, en effet, si on ne croit plus au progrès de manière naïve, l'idée que l'histoire humaine est et demeure l'histoire de la liberté, reste très forte. Donc nous ne sommes encore, dans une certaine mesure, hegéliens. Hein, il y a une finalité à l'histoire, et alors peut-être trouvera-t-elle son apothéose dans la démocratie représentative et l'économie de marché, peut-être peut-on lui trouver un autre objectif, reste que cette croyance demeure forte. Elle s'est exprimée notamment au moment des printemps arabes, de manière très très spectaculaire, et vous citez une phrase magnifique de Hegel, Michael Fussell. La consolation est une compensation factice d'un mal qui n'aurait pas dû se produire. Son domaine est celui des choses finies. Aussi bien la philosophie n'est pas une consolation, elle est quelque chose de plus. Elle réconcilie, elle transfigure le réel qui paraît injuste et l'élève jusqu'au rationnel en montrant qu'il est fondé sur l'idée elle-même et en mesure de donner satisfaction à la raison. Car c'est dans la raison que réside le divin. Donc, ces choses atroces qui ont pu se produire, eh bien, elles ont débouché sur, peut-être, au bout du compte, plus de liberté. Alors, ma question, c'est, peut-on continuer à raisonner en ces termes après le XXe siècle? Et là, je citerai une dernière fois Foucault, un texte absolument magnifique. L'épreuve décisive pour les philosophes de l'Antiquité, c'était leur capacité à produire des sages, au Moyen-Âge à rationaliser les dogmes, à l'âge classique à fonder la science, à l'époque moderne, c'est leur aptitude à rendre raison des massacres. Les premiers aidaient l'homme à supporter sa propre mort, les derniers à supporter la mort des autres. Est-ce que c'est pas Foucault là qui a raison contre Hegel?
Certainement. D'ailleurs, Hegel joue la réconciliation plutôt que la consolation, dont il considère que c'est finalement un pis-aller, parce qu'il s'inscrit dans le modèle qui a dominé une certaine philosophie de l'histoire, qui est le modèle de la théodicée. C'est-à-dire que finalement, le mal, l'injustice, les massacres deviennent ou prennent sens du point de vue de l'esprit, ce qui suppose d'ailleurs qu'il y ait une position de surplomb par rapport à l'histoire qui nous permette d'en donner le sens total, et que la théodicée, c'est la justification de l'existence de Dieu en dépit du mal. Bon, bah, chez Hegel, il y avait une tentative de justifier l'esprit en dépit, effectivement, des massacres dont il a d'ailleurs, ou des horreurs de l'histoire dont il était l'un des un spectateur, si je puis dire, tout à fait attentif. Il n'a jamais nié que c'était l'un des aspects fondamentaux. Il le dit d'ailleurs, les pages de bonheur sont les pages blanches de l'histoire. Alors, ce avec quoi nous avons rompu, je ne suis pas sûr que nous soyons encore hegeliens. Nous avons tout de même rompu, et d'ailleurs, je n'y vois pas inconvénient pour ma part, avec cette idée selon laquelle l'histoire serait de manière, alors soit mécanique, soit providentielle, serait le laboratoire en quelque sorte de constitution du bien au niveau empirique d'une certaine manière. André Comte-Sponville parlait de notre époque comme d'une époque qui a quand même rompu avec les espérances politiques. Bon, pour le meilleur ou pour le pire, nous ne sommes plus convaincus que notre action singulière trouvera ou participe d'une sorte de plan spéculatif ou divin qui mènera au bien. On aurait plutôt l'idée, je m'arrêterai là, on aurait plutôt l'idée, ou plutôt l'idéologie pour le coup, d'une sorte de pétrification de l'histoire dans un modèle qui est le modèle, vous avez dit, de la démocratie représentative. J'insisterai aussi sur le marché comme une espèce, disons, de fixation ou de pétrification du temps historique dans une forme de vie ou une hiérarchie de vie ou une forme de répartition des normes dont on considère justement qu'il n'y aura pas de lendemain, hein, parce que la difficulté à penser un au-delà du marché ou un ailleurs, un après, est aujourd'hui bien réelle.
Oui, vous savez que moi j'ai toujours, si j'ose dire, joué Spinoza contre Hegel, c'est-à-dire l'idée que la nature ne poursuit aucune fin ou aucun but. Et que donc, il n'y aura jamais de fin de l'histoire, parce que le thème de Fukushima sur la fin de l'histoire, au fond...
Fukuyama, c'est la fin de l'histoire.
S'explique par le fait que l'histoire ne peut avoir atteint sa fin que parce qu'on suppose qu'elle a un but, évidemment. Et donc, c'est le hegelianisme foncier qui permet de croire absurdement que l'histoire aurait atteint sa fin. Si au contraire, comme je le crois, l'histoire est un procès sans sujet ni fin, comme disait Louis Althusser, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de but, mais que nous faisons quotidiennement et de façon conflictuelle. Vous savez ce qu'écrivait Engels, il explique qu'au fond l'histoire est soumise à un jeu de forces contradictoires, et il écrit « ce que veut chaque individu est empêché par ce que veut chaque autre, si bien que le résultat global est quelque chose que personne n'a voulu ». C'est comme ça que l'histoire avance, mais je dirais, elle avance malgré tout par son mauvais côté, comme disait Marx, mais me semble-t-il plutôt dans le bon sens.
Ah ben voilà, alors là, c'est là-dessus peut-être peut-être que il y a vraiment matière à discussion. Peut-on continuer à dire, après justement le siècle dont nous sortons, que l'histoire avance par ses mauvais côtés? J'ai cité Foucault, je citerai Lévinas. La dialectique où le mal rend service au bien, où le bien peut objectivement être une force du mal, est confusion et nuit. Il faut une révolution qui dissipe cette croyance, il faut que le bien soit le bien et le mal le mal. Est-ce que nous n'avons pas besoin, après nous être étourdis de dialectique, de tautologie justement?
Oui, c'est pourquoi il faut refuser l'idéal de la réconciliation, qui prétend évacuer le tragique, évacuer le conflit et évacuer la désolation, pour reprendre le mot de Michael Fossel. Mais vous savez, ça pose au fond la question du pessimisme et de l'optimisme, comme vous disiez tout à l'heure. Moi, je reste fidèle à une formule de Gramsci qui disait « pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté ». Pessimisme de l'intelligence parce que mieux vaut voir les choses comme elles sont. Et à tout prendre, mieux vaut les noircir que les enjoliver, parce qu'on sera plus lucide, plus vigilant. Mais optimisme de la volonté, parce que si on veut changer les choses, encore faut-il croire que c'est possible. Vous savez, nous disions en 68, ce n'est qu'un début, continuons le combat. C'était une absurdité de dire que ce n'était qu'un début. L'histoire est évidemment fort ancienne. Moi, je dirais plutôt aujourd'hui, ce n'est pas qu'un début, mais continuons le combat. Autrement dit, ne baissons pas les bras. Arrêtons de nous incliner devant l'existence du mal comme si on ne pouvait rien faire contre, mais aussi arrêtons de prétendre l'évacuer au nom de je ne sais quelle impossible réconciliation.
Michael Fossel,
le caractère non dialectisable du mal me paraît être un triste acquis, mais un acquis quand même des expériences totalitaires, en particulier du XXe siècle. Maintenant, là où je serais peut-être beaucoup plus nuancé, et d'ailleurs Lévinas l'était aussi, de ce point de vue-là, c'est le fait que l'on puisse projeter sur le politique des catégories qui sont quand même des catégories fondamentalement morales. C'est-à-dire là, on ne peut pas simplement condamner la possibilité même, disons, si le mot ne convient plus, progrès, parlons d'émancipation, au nom du mal qui a été fait, qui est incontestable et je crois incontesté, sauf dans des secteurs heureusement limités de la société, qui a été fait au nom des idéaux d'émancipation. Donc oui, évidemment, à la sacralisation de ces notions de bien et de mal dans leur antinomie et pas dans leur caractère dialectique, mais non à la au jugement ou à la dépréciation de toute tentative, disons, de d'émancipation ou de progrès au nom des tragédies de l'histoire du XXe siècle.
Très bien, c'est une belle conclusion, Michael Fossel. Je renvoie donc à votre livre, Le Temps de la Consolation. Il est publié aux éditions du Seuil. André Consponville, vous publiez chez Albin Michel des entretiens avec François Livenet sous le beau titre, emprunté à Montaigne, je crois, « Ces choses tendres que la vie ». C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lochard et Didier Lagarde, à la technique aujourd'hui, Éric Boisset, dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.